énumérer tous les domaines dans lesquels, dans la vie, on se trouve impuissant. On n'y arrive pas. Bon, je vais commencer par le plus facile, une impuissance physique. Parce que moi, je suis costaud, mais enfin, il ne faut pas trop en demander quand même. J'ai fait plusieurs déménagements dans ma vie, quand même, porter des meubles. Mais le dernier, j'ai compris que ce serait le dernier. Parce que ça commence, hein, si je pèse, je prends du lourd, ça commence à faire mal au dos, etc. Voilà, ben, je ne peux plus. Mais là, ça va, parce que c'est comme si c'est un domaine assez facile de la vie, j'ai vite trouvé la solution. La dernière fois que j'ai eu un meuble à transporter, j'ai emmené mes deux fils aînés. Et puis, moi, le meuble, je n'ai pas touché. Hein. Et puis, l'un de mes fils, il m'a dit, ben, en fait, papa, t'es riche. Et pourquoi je suis riche? Ben, parce que t'as du personnel. C'est la vérité. Moi, je suis content qu'il ait compris ça. Parce que quand on me dit, papa, t'es riche, ça dépend. En argent, c'est une chose. Mais si vous avez des gens autour de vous qui vous êtes riche. En fait, on ne se rend pas compte que c'est ça, la vraie richesse. Et en fait, dans cette histoire, il y a déjà la solution du problème. Je suis impuissant. Je ne peux pas faire ce boulot. Ben oui, mais s'il y a d'autres qui peuvent le faire et qui sont sympas avec moi et qu'ils m'aident, ben voilà, ça y est. Ça débloque la situation. L'impuissance n'est plus. Je dis ça parce que je vous dis déjà la solution d'avance, mais bien sûr, on va aller plus loin. Et au plus on va loin, au plus c'est pas facile. Il y a une impuissance qu'on rencontre, en tout cas, moi je la rencontre beaucoup, c'est les limites de notre caractère. Vous avez un caractère, moi aussi. Ça nous permet de faire des choses, notre caractère, parce qu'on a de l'énergie, on a des capacités, on va ci, on va là, on fait ci, on fait ça. Et puis, de temps en temps, on n'y arrive plus. Ça vous arrive jamais? Moi, j'aime bien, tout à l'heure, je regardais ma Bible, c'est écrit « gros caractère ». J'ai dit « ouais, dans l'Église, mais pas seulement dans l'Église, il y a des gros caractères ». J'en fais partie, sûrement. C'est-à-dire, il y a des caractères, eh ben, de temps en temps, ils se cognent avec les autres caractères, et on ne sait plus comment y arriver, on ne sait plus comment franchir l'obstacle. Tout le monde a ses limites. Hein. Moi, j'ai des limites avec l'hostilité. Moi, quand des gens me sont hostiles, je sais qu'il faut que je me taise, parce que ça bloque. Mon premier mouvement, c'est que ça bloque. Et alors, si je réagis, bon, ça va être la bagarre, quoi, c'est tout. Et on n'obtient pas grand-chose par la bagarre. C'est dans tous les domaines. Quand je travaillais en entreprise, j'étais chargé des conflits avec l'administration fiscale. Donc il y avait des problèmes. Et puis, je commence toujours par un coup de téléphone à la trésorerie concernée. J'ai appris, mais vraiment, que quand j'étais énervé, il ne fallait pas que je prenne le téléphone. Mais vraiment, parce que j'obtenais pas satisfaction. Alors quand j'étais énervé, j'ai dit non, ça, ce dossier-là, je m'en occupe demain. Et je vous assure que le lendemain, quand j'étais calmé, ça allait mieux. Parce qu'il y a des moments où on bloque. Alors bien sûr, je le dis de manière humoristique, vaut mieux, c'est toujours mieux. Mais on plafonne. J'ai rencontré mon plafond, c'est-à-dire... Je devrais faire bien. Tiens, je suis pasteur à Béthune. Il y a des fois, les gens, ils demandent des choses au pasteur. Écoutez, alors, des fois, on peut. Des fois, on est capable. Ils demandent que le pasteur aille les visiter tout le temps. Il y en a, ils savent faire ça. Moi, non. Moi, les gens, ils m'énervent quand ils réclament. Ah, les gens qui mendient. Oh là là là. Alors qu'il y a d'autres gens qui ont besoin et qui, eux, ne mendient pas. Et que vous allez voir une fois par an, ils vous disent encore merci. Et puis il y a ceux, si vous n'allez pas la voir toutes les deux semaines, ils vous font des reproches. Oh, moi je plafonne. Je ne peux pas, c'est tout. S'il y a un pasteur qui peut, bah, qu'il vienne et qu'il prenne la place, moi je ne peux pas. Je ne ferai pas. Bon, dans les couples, on plafonne aussi quelquefois. Hein. Allez, avouez. Non, n'avouez pas, ce n'est pas la peine. Vous avez cassé le plafond. Et il t'est retombé sur la tête. Bon. Mais il y a des plafonds, et à un moment donné, on dit, bah ouais, on a eu une bonne relation, et puis dans certains domaines, on continue, après tout, hein, on fait marcher, quoi, hein. On fait aller, comme on dit, ça va, oui, on fait aller. Mais on sait bien que y a un moment donné, on n'y arrive plus et on ne sait pas comment franchir l'obstacle. Et ça, c'est les limites de notre caractère. On a tous des limites, hein. Mais moi, je ne vais pas maintenir des mystères. J'ai des limites, et alors ? Moi, j'ai bien compris que si le Seigneur voulait nous libérer de nos péchés, il ne veut pas nous libérer de nos limites. Pas forcément. Pourquoi ? Parce que c'est à cause de mes limites que j'ai besoin des autres. Voilà. Il y a des trucs que je ne ferai jamais, mais l'autre, il le fera. Mieux que moi. Et au lieu d'être jaloux, comme j'ai prêché sur la jalousie la dernière fois, je dis, là, l'autre, ensemble, il va se passer des choses. Et mes limites, elles ne compteront plus parce que mes limites pour moi, ce n'est pas la limite pour quelqu'un d'autre. Des choses qu'on sait faire, des choses qu'on ne sait pas faire. Puis je vais aller plus loin. Il y a les limites qu'on rencontre dans le domaine spirituel. Alors je vais taper très haut tout de suite. L'autre jour, je revenais de Béthune, là. Il y avait encore des gens qui restaient ici. Puis je vois sortir le jeune Raphaël. Je le cite... Vous pouvez lui répéter. Et il me dit, alors, ça a été à Béthune ? Et moi, je m'apprête à lui répondre. Puis il me répond, t'as ressuscité un mort ? Voilà. Je ne peux pas nier que si je lis l'Évangile, ça va jusque-là, hein, la parole de Dieu. Mais moi, je n'ai pas ressuscité un mort. Et même peut-être j'ai prié pour un malade et puis que ce malade n'est pas guéri. C'est où la limite ? Pourtant, il est écrit, c'est l'Évangile, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, j'ai cru, normalement. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. On sait que ça se produit, on sait que ça ne se produit pas toujours. Si vous y étiez tous à imposer les mains aux malades et que les malades seraient guéris, j'aurais honte. Hein. Bon, j'ai pas trop honte, je ne suis pas le seul. Mais quand même... Il y a une limite dont on se dit quelquefois, et puis après tout, si Jésus n'avait pas dit ça, mais il l'a dit, hein, et il l'a répété, il l'a fait, il a dit à ses disciples, vous aussi, vous allez, alors bien sûr, ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru, ce sont des signes qui accompagnent la parole de Dieu, la parole, c'est quand même toujours le but, c'est d'écouter la parole de Dieu, hein, et de se laisser toucher par la parole de Dieu, mais enfin quand même, ça en fait partie. Et comme on est limité, nous, croyants, pour apporter l'évangile aux non-croyants, on le fait quand même, on a raison. Il y a du fruit quand même, pas assez. Vous voyez, toutes ces limites, ça peut nous donner un sentiment d'impuissance. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai pas encore lu la Bible. C'est pas bien, hein. Alors là, normalement, sur ce sujet, je me suis dit je devrais prêcher soit sur le texte de la multiplication des pains, je ne vais pas le faire. La multiplication des pains, c'est de dire, il y a 5000 personnes à faire manger, puis vous n'avez pas de quoi. Quand même, on est limité, on est impuissant. Donnez-leur vous-même à manger, il dit Jésus. Hier soir, on a eu... Faut pas seulement remercier Sonia et Alex, mais aussi Olivier Ventier, et faire la pub pour Édouard Sage, pour la boucherie Édouard Sage, parce que il nous a fourni et il nous a donné. Il nous a donné beaucoup. On a reçu quelque chose, mais donnez-leur vous-même à manger. Alors voilà, et je vais presser. J'ai que 5 pains et 2 poissons. Encore, c'est même pas les miens, c'est un gamin qui avait 5 pains et 2 poissons. On les lui a réclamés, pauvre gosse. J'espère qu'il les a donnés de bon cœur. Et puis, il s'est passé quelque chose. L'autre passage que je devrais vous citer, c'est la veuve avec Élie. Vous savez, Élie, Dieu l'envoie voir une veuve pour le nourrir, parce qu'il est chassé, hein, il est pourchassé, on veut le tuer. Et puis la veuve, elle dit, quoi, il me reste un peu un chouïa de farine et un petit pot avec de l'huile, j'ai presque rien, je vais faire ma galette, je vais manger, puis après je vais mourir de faim. Et puis... Élie qui lui dit, réclamer à tes voisins des récipients. Et elle réclame des récipients, autant qu'elle peut. Et puis voilà que l'huile, elle n'arrête plus de couler. Voilà. Le peu d'huile, Dieu a multiplié. Maintenant, je ne veux pas vous parler de ce passage-là non plus. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes dans l'impasse, quand vous êtes impuissant ? Je dis, des fois, ça peut ne pas être grave, mais des fois, c'est grave, hein. Il y a des gens qui sont dans le malheur, on aimerait les aider, puis on n'y arrive pas. Ou soi-même. Ça ne va pas. On ne s'en sort pas. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben moi, je vais vous dire, on fait deux choses. On pleure et on prie. Voilà. On pleure parce que je ne peux plus. J'espère que vous pleurez. Ça fait du bien de pleurer de temps en temps. Vaut mieux pleurer que de faire du mal, quoi. Parce qu'il y a une chose à ne pas faire, c'est se retourner contre l'autre, se faire du mal à l'autre, ou, pour certains, se faire du mal à soi-même. Ça ne mène à rien. Mais on pleure, parce qu'il y a de quoi pleurer, ça ne va pas. Et on prie, parce qu'on se dit, le Seigneur fait quelque chose. Mais ma prière, elle va jusqu'où? Vous n'avez pas parfois l'impression que vos prières sont impuissantes? Alors, moi, j'ai trouvé, dans mes groupes d'études bibliques, là, je dis des choses aux gens, puis je dis, c'est quand même chouette les choses que je dis aux gens. Alors, il faut que je les répète. Si c'est chouette, c'est parce que c'est là-dedans. Je vais vous proposer comme texte une vision de l'Apocalypse, chapitre... attendez où j'étais, comme d'habitude, je ne suis pas mon papier. Voilà, Apocalypse 5, verset 4. Bon, c'est une belle vision, c'est une grande vision, c'est la vision du trône de Dieu et tout ce qu'il y a autour, et de la grande louange qui se déroule autour du trône de Dieu. C'est magnifique, mais là aussi on peut se dire, ouais, mais c'est où? Et moi je suis où dans cette histoire? Est-ce que j'en fais partie de cette grande vision de tout ce qui tourne autour du trône de Dieu? Alors moi je vais vous dire où est-ce que vous êtes. Parce que dans cette vision, il y a un os, il y a un plafond, elle y est là, il y a quelque chose de cette impuissance que nous ressentons. Alors je vis dans la main droite de l'Éternel, dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône, un livre, écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il était scellé de sept sceaux. Il était scellé, il était fermé, voilà, le truc, les trucs fermés, les trucs qu'on n'arrive pas à ouvrir. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Qui est-ce qui va résoudre mon problème? Qui est-ce qui va débloquer ma situation? C'est quoi ce livre? Moi, je crois que ce livre, c'est le livre des alliances entre Dieu et les hommes. Mais personne, ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ça ne nous laisse aucune chance, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Alors quoi? Je me mis à pleurer abondamment. Vous voyez, c'est une des choses extraordinaires dans l'Apocalypse, c'est que Jean a des visions. Ah, les visions, c'est pas lui qui les produit. Il lui est dit simplement, écris ce que tu vois, c'est sa mission. Qu'est-ce qu'il vient faire à pleurer? Vous voyez, c'est pas dans ce qui lui a été demandé, mais il pleure. Et alors, on va dire, quoi, arrête de pleurer, écris plutôt. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voilà, on se soucie de lui. Déjà, c'est la première participation. Quand vous pleurez parce que vous vous dites, ça ne va pas, on n'y arrive pas, eh bien Dieu n'est pas en train de dire, qui c'est celui-là, pourquoi? Non, non, Dieu est en train, l'un des vieillards, c'est-à-dire l'une des personnes qui tournent autour du trône de Dieu, qui se prosterne devant le Seigneur en permanence, vient pour lui parler. Quand vous pleurez, Dieu vient pour vous parler, pour vous dire quelque chose, il s'approche de vous. Moi, c'est ce que je lis là-dedans. Il lui dit, ne pleure pas, voici, il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, pour ouvrir ses livres, le livre, et c'est sept sceaux. Quand vous pleurez, il vient vous parler de celui qui a remporté la victoire. Vous savez, il est appelé le lion de Juda, ici dans ce passage, et dans cet unique passage. Tout le reste du temps, il est appelé l'agneau immolé. C'est le contraire, vraiment. Un lion, c'est puissant. S'il y a un lion qui rentre dans la salle, là, planquez-vous. S'il a décidé de vous attaquer, vous ne ferez pas long feu. Mais un agneau. Un agneau, vous l'attrapez comme ça, il fait « ben, il ne peut rien faire d'autre ». Un agneau, c'est impuissant. Vous voyez, c'est l'image même de notre impuissance. Et en plus, il en l'égorge. Il est immolé. Et il vient vous dire Moi, l'agneau immolé, je suis aussi le lion de la tribu de Juda. J'ai été trouvé digne d'ouvrir les sept sceaux, de briser les fatalités. Alors je vis au milieu des trônes et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, au milieu du trône, hein, au milieu du trône, hein, pas à côté, hein, un agneau qui se tenait debout. Vous voyez, il voit le lion et aussitôt c'est un agneau qui se tenait debout. Il semblait avoir été égorgé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Il y en a bien un pour vous, s'il y en a sept. Bien sûr, sept c'est un nombre symbolique. Mais ça veut dire il est envoyé sur toute la terre. L'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Lorsqu'il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières de ceux qui appartiennent à Dieu. Voici les voici vos prières. Vous voyez, j'ai dit les pleurs et les prières. Eh bien, quand ils font la grande cérémonie autour du Seigneur pour introniser l'agneau de Dieu qui est aussi le lion de Juda, je dis, oh ben, je suis où là-dedans? Eh bien, ils apportent une coupe en or remplie d'un parfum qui représente les prières de tous les saints. Parfois, vous vous dites peut-être, qu'est-ce qu'elles valent mes prières? J'ai prié le Seigneur, mais qu'est-ce qu'elles valent mes prières? Ben là, vous avez une image. Ce soir, quand, avant de vous endormir là, pour faire des rêves, vous imaginez cette coupe pleine de parfum qui est tenue en permanence auprès du Seigneur et qui représente vos prières. Quand vous pleurez, il y a un être puissant qui descend jusqu'à vous pour vous parler et pour vous parler de l'agneau immolé, du lion de Juda. Et quand vous priez, vos prières, elles vont jusqu'en haut. Jusqu'aux narines du Seigneur, excusez-moi, bien sûr, c'est une image, c'est une métaphore, mais il est là, il sait que vous êtes en train de prier. Voilà la bonne nouvelle qui est contenue dans ce texte. Vous voyez, la vision du trône, ben on y est, on s'y trouve dans nos pleurs et dans nos prières. On se trouve projeté au plus haut niveau de la présence de Dieu, et de même que lui vient jusqu'au plus bas niveau de notre désespoir quand nous pleurons. C'est pas mal, hein, j'ai bien fait de lire ce texte. Hein. Et où en suis-je? Alors c'est quoi le... Comment ça se passe? Comment ça se passe quand je suis bloqué dans mes impuissances de toutes sortes? Je l'ai dit un peu dès le début. Ouais, ben si moi je peux pas, mais que l'autre il peut, et que c'est mon frère ou ma sœur, et qu'il est sympa, et ben ça résout le problème. Ça débloque les situations. Il y a donc déjà une réponse dans l'amitié fraternelle, dans l'amour fraternel. Mais ce passage de l'Apocalypse nous dit aussi qu'il y a une réponse dans l'amour du Seigneur. Oui, mais concrètement, quand est-ce que ça arrive? J'en sais rien. Mais je sais que l'issue, ce qui fait échec à nos échecs, à nos impuissances, c'est de maintenir le lien, de maintenir la relation avec le Seigneur. Vous savez, il y a des exemples comme ça. Pour moi, c'est tout le secret de Job. Parce que Job, il est descendu au plus bas, hein. Avec la permission de Dieu, tout lui a été enlevé, mais tout, c'est-à-dire tous ses biens, il s'est retrouvé assis sur un tas d'ordures, mais vraiment, c'est-à-dire toute sa famille, tous ses enfants morts, et sa femme qui lui dit, qui lui maudit Dieu et meurt, c'est-à-dire sa santé, voilà, mais tout, qu'est-ce que vous pouvez imaginer tout perdre de plus que ça? On perd une chose, on ne trouve pas ça drôle, mais on supporte. On perd deux, on perd trois, on perd tout, ça ne va plus. Et Job, qui en plus a été accablé par des amis bien intentionnés, qui disaient, allez, admets que c'est ta faute, etc. Non, ce n'est pas possible, ce n'est pas de ma faute, etc. Mais Job, il fait cette chose extraordinaire. Il s'en prend à Dieu. Il dit à Dieu, mais pourquoi ? C'est pas juste, c'est pas normal. Il dit, je veux être en procès contre Dieu. Mais quand on est en procès contre quelqu'un, il faut un juge, impartial normalement, qui va... Et qui sera le juge entre Dieu et nous, entre Dieu et Job ? Ben Job, il a ce mot extraordinaire, il dit, ben, je suis en procès contre Dieu et c'est Dieu mon juge. Voilà. Et il ne peut pas faire autrement. Je m'oppose à Dieu, mais je n'ai recours, je ne peux avoir recours à personne d'autre qu'à Dieu. Et c'est Dieu qui lui fait justice. Pourquoi ? Il n'a jamais lâché ce lien qu'il y avait avec le Seigneur. Il ne lui restait que ça, il n'a jamais lâché ça. Et ça a été son salut après beaucoup d'épreuves. J'ai noté le passage sur Job 16. Évidemment, depuis j'ai changé mon machin. Job 16, versets 18 à 23. Job qui se plaint, hein, mon visage est rougi. Non, 18. Ne couvre pas mon sang, ô terre, que mon cri ne soit pas étouffé. Dès à présent, j'ai un témoin au ciel. Oui, j'ai dans les lieux élevés quelqu'un qui témoigne pour moi. Mes amis se moquent de moi. Les yeux baignés de larmes, je me tourne vers Dieu. Qu'il arbitre entre l'homme et Dieu. Vous voyez, je me tourne vers Dieu pour qu'il arbitre entre l'homme et Dieu. Pouh ! Moi, si je dois arbitrer entre moi et quelqu'un d'autre, ce sera vite fait. Hein. Parce que c'est si, forcément, si on n'est pas d'accord, c'est que j'ai raison. Non ? Vous ne trouvez pas ? Mais il compte sur Dieu pour arbitrer entre l'homme et Dieu. Et Dieu a arbitré. Après, il a dit, mon serviteur Job, pourquoi avez-vous dit du mal de mon serviteur Job ? Vous voyez, à quoi on est réduit ? Ben, moi, pour moi, Job, c'est l'image même de l'impasse absolue, parce que sa vie, elle n'avait plus d'ouverture, quoi, d'issue. Mais il dit, j'en appelle à mon témoin au ciel. Qu'il arbitre entre l'homme et Dieu et entre l'homme et son ami, ma vie touche à sa fin et je m'en vais par le chemin d'où l'on ne revient pas. Qu'est-ce que j'ai noté encore ? Ouais, bon, je le lirai pour la fin. Pour moi, le secret, c'est... Bah, moi, j'ai vécu des choses. À un moment donné, j'ai dit au Seigneur, j'y arrive plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La réponse que Dieu m'a dit, c'est « Et si tu restais fidèle ?» Et si tu restais fidèle ? Voilà. Fidèle à l'Église, fidèle à ma femme, fidèle à tout le monde, en tant que possible. Et si tu restais fidèle ? Est-ce que ça résout mes problèmes de dire ça ? Mais oui, c'est maintenir le lien, voyez. Ne pas rompre le lien. Ça laisse toutes les possibilités ouvertes. C'est ça, la réponse, c'est ça le secret. Maintenant, je lui dis, ok, bah, jusque maintenant, je suis resté fidèle, tu devrais quand même faire bouger les choses, faire progresser les choses. Bien sûr qu'on a envie de voir les choses avancer, de voir les choses progresser. Mais enfin, quand même, c'était sa parole, et si tu restais fidèle. Puis un jour, je me souviens, c'était un peu... Parce que quand Dieu vous répond, hein, il vous répond ce qu'il veut, je ne sais pas si vous remarquez, si vous dialoguez avec le Seigneur. Un jour, je lui ai dit, Seigneur, j'en ai marre. Et puis, la petite voix à l'intérieur, elle m'a dit, est-ce que c'est vrai que tu en as marre ? Alors, j'ai regardé mon cœur, et j'ai dit, non, Seigneur, j'en ai pas marre. C'est pas vrai que j'en ai marre, voilà. C'est pas vrai, pourquoi j'en ai pas marre ? J'en sais rien, j'en ai pas marre. Alors je dis, c'est le don de Dieu, donc j'en ai pas marre, donc je continue. Et voilà ce qui met l'échec en échec, en quelque sorte. Je continue, et je continue avec le Seigneur, avec l'aide du Seigneur, avec l'humilité, il a dit, il a raison. Hein. Il a dit, il faut recevoir favorablement, a priori, tout ce qui vient d'un cœur humble, et se méfier de tout ce qui vient d'un cœur orgueilleux. Jean-Michel, il a raison. Mais quand j'en suis dans l'échec, là, je suis dans l'humilité, j'y arrive pas, Seigneur, j'en ai marre. Non, t'en as pas marre. Et pourquoi t'en as pas marre ? J'en sais rien. C'est pas moi, c'est le Seigneur. Voilà. Et là, j'ai réouvert le jeu. Et je continue. Puis il se passe des choses. C'est pas moi, il se passe des choses. Je sais pas si vous savez, mais à Béthune, je me suis fait jeter. Hein. Puis j'ai persévéré, puis maintenant, ça change. Ça bouge. Il va y avoir à Béthune plusieurs baptêmes. Il n'y en a pas eu depuis 10 ans. Voilà. Moi, des fois, je me demande, est-ce que je porte du fruit? Vous savez, je me demande. Hein. On peut faire des choses, je dis, ouais, mais bon, je prêche. Est-ce que les gens se convertissent quand je prêche? Bon, on peut se poser des questions, ce n'est pas le cas. Ce genre de choses est arrivé tout au début de ma conversion, que j'arrive, que je dise quelque chose et que des gens se convertissent. Il y en a même qui ont la bonté de le rappeler de temps en temps. Mais après, j'ai eu l'impression que pendant longtemps, ce n'était pas le cas. Bon. Et ça peut être, je dis, ben, je plafonne, je prêche, et puis est-ce que ça produit du fruit? Ben, moi, je commence à avoir du fruit. Les gens, ils sont confondus. Il y a des gens qui m'ont rejeté, puis ils voient que le fruit est produit. Ah ben, ils changent d'avis. Et voilà ce qui était bloqué, là où j'avais pas de solution, ça bouge, ça change, ça évolue. Voilà. Alors, je vais finir en lisant le passage, parce que c'est le passage de 2 Corinthiens 5, parce que pour moi, c'est ça le message dans nos impasses, dans nos impuissances, dans nos pleurs, dans nos prières, qui est le message de fond. Alors, il peut y avoir des messages spécifiques pour l'un, pour l'autre. Le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait quand on a besoin d'encouragement concret. Il sait qu'il faut qu'il se passe quelque chose, sinon on va vraiment... On pourra vraiment plus. C'est comme un enfant, hein. On le met à l'épreuve, on dit vas-y, débrouille-toi, essaye. Il faut bien qu'il apprenne, mais il ne faut pas non plus le mettre à l'épreuve à l'extrême, sinon il va faire qu'échouer et il va se décourager. On est comme des enfants et le Seigneur sait nous éduquer. Mais en fin de compte, le message est toujours celui-là. Et du coup, j'ai noté ça. Bref, je ne sais plus, il faut le jouer. Voilà. Nous savons donc. Attendez. C'est le message de la réconciliation, mais j'ai noté ça m'énerve, excusez-moi. Vous voyez, je rencontre la limite de ma capacité à me trouver dans mes notes. Voilà. Non, c'est pas sûr. Bon, tant pis. Ouais. Alors, commençons par le bien 2 Corinthiens 5, verset 4. En effet, nous vivons dans cette tente, la tente de notre corps, hein, abri précaire, c'est ça que ça veut dire. Nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais revêtir un vêtement par-dessus l'autre. Ainsi, ce qui est mortel sera absorbé par la vie. Voilà. Nous gémissons parce qu'on aimerait bien revêtir ce vêtement de la vie éternelle, du royaume de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à un tel avenir, déjà, c'est une promesse, enfin c'est un avenir, et qui nous a accordé son esprit comme acompte des biens à venir à l'acompte. L'acompte, ça se paye d'avance, hein. C'est les arts. Hein. Donc il y a bel et bien un acompte à recevoir de ces biens que le Seigneur nous réserve. Nous sommes donc en tout temps pleins de courage. Ah, tiens, on n'est plus découragé. Et nous savons que tant que nous séjournons dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous vivons guidés par la foi, non par la vue. Nous sommes pleins de courage, mais nous préférerions quitter ce corps pour aller demeurer auprès du Seigneur. Aussi que nous restions dans ce corps ou que nous le quittions, notre ambition est de plaire au Seigneur, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ. Et chacun recevra ce qui lui revient selon ses actes bons ou mauvais qu'il aura accomplis par son corps. Moi, je dis surtout par notre fidélité qu'on aura maintenue ou qu'on aura refusée. Mais c'est surtout, moi je dis pourquoi, des fois je dis pourquoi je continue. À cause de ceci, verset 14. En effet, l'amour de Christ nous étreint. L'amour de Christ nous étreint. Quand on a compris, on est submergé. Qui est-ce qui disait ça hier? J'ai entendu dans le témoignage. L'amour qu'il a, c'est Matthieu. Hein, voilà, tout à fait. L'amour de Christ nous étreint, car nous avions acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Voilà le secret. L'amour de Christ nous étreint tellement que nous ne vivons plus pour nous-mêmes et pour nos propres impasses. Mais le chant le disait tout à l'heure. Hein. Comment disait je rejette mes peines, mes soucis, je sais quoi. Comment il disait j'abandonne, voilà, tout ça, pour entrer dans la louange. C'est ça, hein. Comment on peut abandonner ses soucis et ses échecs? Oui, on peut les abandonner, nos échecs, les laisser tomber. Vous vous rendez compte un peu du message? On peut dire, mais mes échecs qui existent là, qui me bloquent dans la vie, je les laisse tomber, je m'en occupe plus, je m'occupe d'autre chose, je m'occupe de la louange, donc je m'occupe de me réconcilier avec le Seigneur. Je m'occupe de me réconcilier avec mes frères et sœurs. Et après coup, on s'aperçoit qu'en général, ça fait tomber nos limites, ça fait tomber nos échecs. Ils finissent par ne plus exister réellement. Ainsi donc, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Bon, etc. Hein, ça va jusqu'où? Il dit, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est l'exhortation qui est valable pour tous les, comment dire, pour tous les limités que nous sommes. Nous vous en supplions au nom de Christ. Comprenez que c'est là la clé, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça change les choses. Les choses changent, elles changeront d'une manière. Elles changeront ultimement, c'est pour ça qu'on croit à la résurrection. Moi j'ai fait des enterrements dans ma carrière plus que tout le monde ici. Et vous savez, des fois, hein, c'est la mort. J'ai pas ressuscité de mort, je suis désolé. C'est la mort. Qu'est-ce qui fait qu'on y croit en la résurrection? Eh bien, c'est quand on a pris l'habitude qui faisait qu'il nous fasse dépasser nos limites par son amour. L'amour est plus fort que la mort. L'amour est plus fort que la mort, tout simplement. Et celui qui, une fois dans ma vie, ou deux fois, ou cent fois, a été plus fort que mes échecs, celui-là, le jour où je meurs et donc je suis confronté à mon échec final, ben ce jour-là, il ne reste que lui. Et lui est plus fort. Son amour pour moi, pas son amour tout court, non, son amour pour moi est plus fort que la mort. Bon, il va falloir... Si un jour je ressuscite à un mort, je vais le dire à Raphaël. On va voir.
Alléluia. Merci David.